Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
2021 est bien parti pour être un grand cru boursier, avec Wall Street qui a battu record sur record et même avec la Bourse de Paris qui a franchi pour la première fois la barre symbolique des 7000 points. Rares seront les perdants cette année, mais certains en veulent toujours plus et aimeraient gagner à tous les coups. Comment ? En devenant initié. Un pari à double tranchant sur le dark web pour ceux qui aimeraient se sucrer sur le dos des investisseurs.
Nullité, nullissime. Petit joueur, petit voleur, petit rapace.
Et moi ?
T'es ruiné ?
Je viens sauver un ami, il voulait se suicider.
Pas possible.
Oui, c'est un petit spéculateur.
Alors tuez-le tout de suite. Évitez-lui les souffrances.
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story des Échos. Chaque jour, la rédaction du journal plonge dans l'actualité pour vous expliquer, vous analyser un fait, une histoire, un chiffre qui façonne l'économie. Aujourd'hui, on va s'intéresser avec Nessim Haït Kassimi au côté obscur de la bourse.
Il me fait « ça te dirait d'être riche ?» Alors je lui dis « oui, bien sûr ». Et il me refile ce bouquin. Il me dit que dedans, il y a les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Tout ce que j'ai à faire, c'est de miser sur le vainqueur et je gagnerai à tous les coups. Non, je lui fais, c'est quoi l'arnaque ? Et il n'y a pas d'arnaque, il me dit. Seulement, faut que t'en parles à personne.
L'almanach de retour vers le futur. Qui n'a jamais eu envie de connaître les résultats sportifs à l'avance ? Ou mieux, les numéros gagnants de l'euro-million dans le journal du lendemain. Bourse aussi, certains aimeraient bien savoir si l'action qu'ils achètent sera plus haute dans une semaine, dans un mois ou même dans un an. Car les risques de perte en bourse existent et ne doivent pas être sous-estimés, même lorsque les marchés financiers sont gagnés par la frénésie, comme c'est le cas depuis mars 2020. C'est la tentation du délit d'initié, une pratique presque aussi vieille que la bourse, puisque l'une des plus anciennes affaires remonterait à l'introduction en bourse de Marconi en 1912, au moment du naufrage du Titanic, naufrage qui allait montrer l'importance des télégraphes Marconi dans l'organisation des secours. Marconi allait remporter alors de nombreux contrats. Certains membres du gouvernement britannique, initiés, en profitèrent pour se remplir les poches. Dans l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, la technologie n'est plus le télégraphe, mais l'informatique. Bonjour Nessim Haït Kassimi.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au service marché des Échos et on va s'intéresser à un personnage qui s'appelle The Bull, le taureau en anglais. Son prêt de prédilection n'était pas dans la ferme du vieux McDonald, mais sur le dark web. Nessim, on trouve de tout dans ce web de l'ombre ?
Alors oui, c'est un internet parallèle qui existe depuis assez longtemps et qui est devenu, à côté d'activités parfaitement légitimes, une sorte de grand supermarché où les escrocs vendent des drogues, des faux médicaments, des faux documents et, on l'a vu plus récemment, aussi des informations de délit d'initié.
On a souvent parlé de ces supermarchés et des drogues en ligne bien cachées du grand public. Le dark web, c'est la face cachée d'Internet, le supermarché des pirates et des truands. Parmi eux, il y avait donc The Bull. Qui est-il ?
Alors, c'est donc un citoyen grec qui s'appelait The Bull. En fait, c'était une référence, vous savez, quand sur les marchés américains, The Bull, c'est-à-dire le taureau, est associé à un marché haussier. Donc, j'imagine qu'il voulait sous-entendre qu'avec lui, les profits seraient en hausse si on suivait ses précieux conseils et surtout si on les lui payait.
The Bull, de son vrai nom Apostolos Trovias, il a 30 ans, il est grec, il vivait à Athènes. Qu'est-ce qu'on lui reproche ?
Alors, il a d'abord été, selon toute probabilité, arrêté au Pérou, car la justice américaine lui reproche en fait une série de faits, à savoir des fraudes boursières. Sur différents sites du dark web, il avait commencé à vendre des informations qu'il estimait être des informations d'initiés, des informations non publiques, confidentielles et qui étaient susceptibles de générer pour ceux qui les achetaient des profits importants. Ça pouvait être, par exemple, une société qui allait faire l'objet d'un rachat. Il pouvait aussi vendre, par exemple, un petit peu à l'avance des résultats trimestriels.
Donc effectivement, avec l'objectif, hein, pour ceux qui achetaient ces informations, bah, de faire des coups de bourse et de gagner très rapidement de l'argent. Apostolos, alors le nom signifie le messager, l'ambassadeur en grec ancien, c'est un nom prédestiné. Cet apôtre de la bourse vendait donc des infos confidentielles sur le web de l'ombre, sauf que Nessim, c'était souvent des tuyaux pourris.
Alors effectivement, ils s'en excusaient parfois auprès de ces acheteurs. On ne sait pas vraiment en fait ce qui s'est passé. La justice maintenant va devoir le déterminer. Est-ce que les informations qu'il obtenait étaient mauvaises parce que leur source n'était pas bonne? Est-ce que c'était lui-même qui les vendait tout simplement parce qu'il voulait faire du profit et puis il avait tendance parfois un petit peu à inventer? Mais parfois, il y avait quand même des informations qui s'avéraient, en tout cas, réelles, notamment sur l'obtention, en fait, de résultats trimestriels avant qu'ils ne soient rendus publics au marché. Il y a eu d'ailleurs, par le passé, plusieurs grandes affaires, notamment impliquant toute une série de réseaux de hackers ukrainiens qui avaient réussi à pénétrer, en fait, les systèmes des sociétés qui hébergent les communiqués de presse et après les rediffusent au marché. Ça avait été une affaire d'ampleur très importante qui impliquait tout un réseau à la fois de banquiers, de traders, d'informaticiens ukrainiens.
Cela s'est passé en 2016. Les hackers étaient parvenus à pirater la base de données Edgar avec une technique vieille comme le net, le hameçonnage. Ils avaient pu mettre la main sur les futurs communiqués de presse annonçant les résultats de nombreuses entreprises, un filon doré pour les traders et un jackpot pour les hackers qui auraient empoché plus de 3,5 millions de dollars. The Bull se vantait lui de connaître à l'avance les actions qui allaient être achetées et vendues par une des principales firmes de trading de Wall Street. Il œuvrait sur Alphabet, un supermarché de la drogue et du trafic d'armes, site qui a disparu du dark web en 2017. L'enquête dira si Apostolos avait des complices à l'intérieur des sociétés et qui lui fournissait ces informations confidentielles. Mais Nessim, je me pose quand même une question. On le disait, parmi les infos qu'il revendait, beaucoup se sont révélées fausses. Comment son arnaque a-t-elle pu durer aussi longtemps dans ces conditions?
D'abord parce que les sites sur lesquels il travaillait donc du dark web sont quand même plus difficiles à déjouer par les autorités. C'est d'ailleurs des agents infiltrés du FBI et du fisc américain qui, pendant assez longtemps, se sont fait passer pour des acheteurs et ont justement pu gagner la confiance de cette personne pour essayer de lui extorquer un petit peu des informations et remonter jusqu'à lui.
On sait combien d'argent il a gagné avec cette arnaque?
Alors, la plainte ne le dit pas précisément, mais on peut estimer plusieurs dizaines de milliers de dollars ou peut-être plus. Mais surtout, il était sur le point de faire un grand coup parce qu'il voulait créer une forme de bourse des initiés. C'est-à-dire qu'il aurait mis en relation, en fait, des informateurs qui avaient des informations donc privilégiées sur des sociétés et des acheteurs potentiels. Un peu comme une sorte de bourse de l'ombre où justement chacun apporterait un petit peu ses tuyaux boursiers et en face, vous auriez des acheteurs potentiels avec, on pouvait l'imaginer, peut-être un effet offre et demande.
Oui, avec des abonnements, par exemple.
Voilà, oui, il avait des formules sous abonnement et parfois, justement, il notait aussi les informations qu'il vendait. Par exemple, quand une société s'apprêtait à annoncer de très bons chiffres, donc avec des gains boursiers potentiels parce que le marché ne l'avait pas anticipé, il notait 10, par exemple, cette information. Quand c'était simplement un résultat boursier finalement un peu standard et pas particulièrement profitable, il notait cette information sous la moyenne.
Ça coûtait cher d'avoir accès à ces informations?
Pas particulièrement. C'était des abonnements mensuels allant de quelques centaines de dollars. Par contre, acheter des informations sur des résultats trimestriels à l'avance coûtait plus cher, quelques milliers de dollars. On pouvait aussi penser qu'il donnait un petit peu une exclusivité en disant « Vous les achetez certes cher, mais je ne les revendrai pas à d'autres. » À mon avis, c'est ce qu'il vendait à certains de ses clients.
Oui, effectivement, on restait entre initiés. Il ne fallait pas trop que ça sorte et qu'il y ait trop de monde au courant. Vous l'avez dit, le FBI a fini par le coincer. Est-ce qu'on sait si The Bull a fait des dégâts?
Alors, on ne le sait pas encore, mais il y avait beaucoup de sociétés cotées américaines qui étaient concernées, je dirais plusieurs centaines, et notamment dans des secteurs, des sociétés cotées dans la technologie, dans les biotechnologies. Alors, on l'a vu, par exemple, au moment de la crise de Covid, ces sociétés-là ont connu des parcours boursiers parfois très importants. C'est lié justement au vaccin et on peut penser qu'en général, c'est un secteur dans lequel il y a une forte volatilité parce qu'il suffit qu'une société soit sur un médicament extrêmement prometteur, il soit la seule, pour que son parcours boursier soit phénoménal et son cours s'envole quand elle annonce justement le fait qu'il y a eu des essais cliniques probants sur certains médicaments.
Vous pouviez même prendre un abonnement à la semaine pour moins de 100 dollars. Mais Nessim le disait, pour obtenir les infos les mieux notées, il fallait payer plus cher. autour de 5 000 $ payables en bitcoin pour acheter par exemple les résultats trimestriels d'une entreprise cotée. Selon The Bull, une note de 10 laissait espérer un gain de 40% à court terme. Malheureusement pour lui, parmi ses faux clients se trouvaient de vrais agents infiltrés du FBI et du fisc américain. Les États-Unis ont demandé son extradition au Pérou. Il risque jusqu'à 25 ans de prison pour fraude boursière et blanchiment d'argent. Christmas in jail, Christmas in jail. Got a little too much to drink. I can't make my bed, I ain't got no bed. And I'm spending New Year's Eve in a clink. Apostolos risque donc de passer Noël en prison avec son trafic d'initiés. Nessim, on trouve beaucoup d'infos privilégiées sur le dark web.
Je dirais que c'est quand même un petit créneau. En règle générale, c'est quand même, en termes de fraude, on va dire, il y a certains sites qui proposent aussi de louer les services de pirates informatiques. Par exemple, pour aller dérober des documents, que ça peut être par exemple chez un concurrent ou ce type de service. Mais disons que le gros quand même des services et des biens illégaux concerne la drogue. Donc, toutes les drogues possibles. Avec la crise du Covid, on a vu que tout ce qui tourne autour des médicaments, des faux certificats de vaccins, des faux tests, ça commence aussi à être quelque chose de très important. Et d'ailleurs, pas nécessairement sur le dark web. Hein, où maintenant, sur toutes les grandes messageries, vous avez des gens qui proposent, moyennant quelques centaines, voire quelques milliers d'euros, d'avoir différents types de tests, différents types de faux vaccins, par exemple.
Ouais, les forums de certains sites internet grouillent aussi d'infos plus ou moins vérifiées. Hein, il n'y a pas que le dark web. Mais avec plus de chances là, de se faire attraper par les gendarmes de la bourse ?
Ouais, c'est plus facile. Et puis en plus, sur le dark web, généralement, les moyens de paiement sont dans certaines cryptos. Alors, comme le bitcoin est quand même une crypto transparente et traçable, certains escrocs maintenant utilisent des cryptos beaucoup plus discrètes et beaucoup plus anonymes. Bon, je pense par exemple à Monero, qui est un petit peu, depuis plusieurs années d'ailleurs, la crypto qui devient de plus en plus privilégiée sur le dark web. Et là, récemment, il y a eu une tentative d'extorsion du géant pétrolier saoudien Saudi Aramco, donc des pirates qui sont introduits apparemment dans les systèmes informatiques et qui ont dérobé des données et qui exigent plus de 50 millions de dollars pour la restitution de ces données. Et ils ont accepté comme monnaie d'échange, Monero justement, qui est une monnaie beaucoup plus difficile à tracer. Alors, tous les grands pays ont maintenant quand même développé des systèmes et une sorte de police, entre guillemets, des cryptos qui est quand même beaucoup plus sophistiquée. Mais malgré tout, ça reste quand même un grand défi. Government tried to ban me from the dark web. I downloaded Tor browser, then got back in. When they got a VPN, just bought another bin. I'ma keep searching these bitches on my site till I can slide a bin. L'internet de l'ombre véhicule de nombreux fantasmes, un lieu idéal pour les amateurs de romans noirs et de thrillers, ou pour les artistes comme le rappeur américain TJ Wisterpoon. Mais la réalité est aussi cruelle dans ce lieu où il est facile de se perdre. Le dark web est le repère de nombreux criminels et fraudeurs qui ne sont pas autant à l'abri de la justice qu'ils l'espéraient. Il y a quelques jours, la police britannique est parvenue à saisir 210 millions d'euros dans une opération contre des cybercriminels. 210 millions d'euros, pas en billets, mais en crypto-monnaie. Quelques semaines plus tôt, c'était la police allemande qui avait démantelé un énorme réseau de vente de drogue sur le Darknet. Mieux, en fin d'année dernière, l'opération Disruptor avait permis de réaliser 179 arrestations liées au trafic de stupéfiants. Plus de 6,5 millions d'euros en liquide et en crypto-monnaie avaient été saisis. Les sommes sont énormes, importantes. Nessim, le dark web, c'est une gigantesque machine à blanchir de l'argent pour les criminels de tout poil. Oui, ça l'est depuis un certain temps, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez important. Alors, c'est quelques milliards de dollars par an, donc c'est beaucoup en absolu. Dans les flux des cryptos, ça reste quand même marginal. On peut estimer que les flux illégaux, c'est moins de 1%, on va dire, des volumes sur les cryptos qui sont maintenant beaucoup plus axés sur l'investissement, la spéculation, enfin toutes les autres activités. Mais c'est vrai que pour les autorités, ça reste quand même un gros point de crispation.
Et l'un des sports de prédilection de ces malandrins des temps modernes, c'est l'arnaque aux cryptos. Selon un rapport de Chain Analysis, plus de 2,5 milliards de dollars investis dans des cryptos se sont volatilisés l'an dernier, faisant plus de 7 millions de victimes. De leur côté, les supermarchés illicites sur le dark web auraient généré 1,7 milliard de dollars de revenus. Nessim,
On sait d'ailleurs qui se cache derrière ces trafics.
On peut penser qu'il y a quand même quelques grands groupes criminels qui se sont développés là-dessus, qui n'opèrent stricto sensu sur le dark web. Après, vous pouvez avoir aussi des grandes mafias qui ont développé, on va dire, comme toute entreprise et comme toute multinationale, des activités spécifiques pour exploiter, on va dire, ce type de créneau. Avec justement toutes les contraintes et tous les risques que ça peut apporter, mais ça peut être perçu aussi pour eux comme une forme de diversification.
Vous parliez de Monero tout à l'heure, c'est compliqué de remonter la trace de ces criminels ?
Ils font tout pour éviter qu'on les retrouve, et je pense notamment à la toute dernière plateforme qui s'appelle Hydra et qui est une plateforme russe. Il y a quand même une grande sophistication, on va dire, des personnes qui créent ces plateformes-là. Alors, effectivement, en général, quand elles deviennent trop importantes, elles concentrent quand même une grande part de l'attention, on va dire, des polices un petit peu de toute la planète. On l'a vu avec Silk Road, qui était en fait la grande plateforme qui a, je crois, fermé vers 2012 ou 2013. Et donc qui était quand même dans le collimateur des autorités. Aujourd'hui, c'est Hydra qui est donc devenue la plateforme numéro un, qui, elle, propose absolument toute la palette des services, faux documents, faux médicaments, drogue, etc. Après, ce type de plateforme, pour les faire tomber, il faut quand même une collaboration importante des diverses polices, il faut quand même beaucoup de moyens, et c'est bon.
Y compris des autorités russes, et j'imagine que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple aujourd'hui en matière de coopération internationale. Dans un article pour Les Échos, vous racontez, Nassim, quelque chose qui m'a surpris. Il y a eu un effet Covid sur le commerce illicite sur Internet ?
Oui, parce qu'en fait, pendant la toute première période, toutes les frontières étaient fermées. Donc, il y a eu quand même beaucoup plus de difficultés pour les groupes et le trafic à faire transiter des produits. Donc, les prix ont pu augmenter avec peut-être même des phénomènes de pénurie. Sur le dark web, tous les vendeurs réclamaient des commandes de montant minimum. Et c'est vrai que, bon, alors petit à petit, ils ont réussi à de nouveau pouvoir approvisionner leurs clients. Et puis, on a vu surtout, un peu comme dans les autres secteurs, une forme de restructuration et de regroupement des plateformes.
Des FUSAC, comme on dit dans l'économie.
De exactement. Les plus petites disparaissant, et puis... Peut-être qu'il y a eu d'ailleurs des coopérations où ils ont voulu mutualiser leurs moyens pour le passage des produits illicites au travers des frontières. C'est pas du tout impossible. Mais c'est vrai que le rapport là de Chainalysis montrait que le secteur obéissait vraiment à des logiques qui étaient maintenant très communes à ce qu'on voit dans la high-tech ou dans ce type de produits. Et d'ailleurs, un des nouveaux maintenant enjeux pour eux est encore de diversifier leurs sources de distribution et de cibler notamment les réseaux comme Telegram, où c'est des messageries cryptées.
Oui, qui sont plus sécurisés ou en tout cas plus difficiles à exploiter pour les autorités et la police.
Voilà, avec un système d'automatisation, c'est-à-dire que ne plus avoir, entre guillemets, des vendeurs en chair et en os derrière leurs ordinateurs qui répondent à des demandes, mais avoir des algorithmes. Ça leur permet de gérer une masse de clients beaucoup plus importante et ils estiment que c'est beaucoup plus dur après de remonter vers eux.
Темный интернет – та часть сети, которая до сих пор остается вне закона. Именно в Даркнете зародился и действует до сих пор крупнейший в России рынок по продаже наркотиков.
Hydra, la marketplace russe, capte aujourd'hui les trois quarts du marché des sites illégaux sur le dark web. Une performance en seulement 6 ans pour ce site qui compterait 2,5 millions de comptes et sur lequel aurait transité l'équivalent de 3,5 milliards de dollars en bitcoin, drogue, médicaments, faux certificats de vaccination vendus entre 11 et 44 euros, sans oublier un service de blanchiment pour transformer ces bitcoins en rouble. J'ai lu avec intérêt un article de la rubrique Cyberguerre sur le site Numérama qui expliquait la stratégie de conquête d'Hydra, qui avait notamment comme projet de faire une ICO, une levée de fonds en devise numérique, pour financer son développement. Nassim, je reviens vers vous. Vous parliez de Monero et de quelques-unes des 10 000 cryptos en circulation, de plus en plus utilisé par les trafiquants, mais on sait que la devise reine, ça reste quand même le bitcoin. L'utilisation du bitcoin dans ses activités criminelles, est-ce que c'est pas un vrai frein à la reconnaissance de cette crypto par les autorités monétaires ou gouvernementales ?
En tout cas, c'est l'un des arguments qu'ils mettent encore assez souvent en avant, et c'est vrai que ça déplaît pas mal au secteur qui montre que le bitcoin n'est plus que cela, alors que c'était effectivement totalement dominant à ses débuts, et notamment au moment où Silk Road avait connu son apogée et puis son déclin. C'était vraiment très associé à ce type de pratique. Après, je pense que ce qui intéresse aussi beaucoup les autorités, c'est toutes les problématiques liées au blanchiment, au financement du terrorisme. On a vu là récemment quelques petites affaires, je crois que c'était en Israël, et qui trouvaient, je crois que c'était les groupes du type Hamas qui avaient créé des levées de fonds en crypto, et donc les autorités israéliennes avaient réussi à bloquer ça. Donc effectivement, c'est aussi, je pense que pour tout type d'activité criminelle ou illégale, les cryptos sont un des moyens à la fois de diversifier leurs sources de financement et d'essayer justement de rester sous les radars des autorités.
Merci Nessim Haïd Kassimi, journaliste au service marché des Échos. La Story, le podcast de la rédaction des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts comme Podcast Addict, Castbox, Apple Podcast, Google Podcast ou encore Spotify. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.